Hello, c'est Romain de 6ème Science, une petite pub, et on est prêt à envoyer de la science dans tous les sens.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
On vit très bien sans savoir.
Alors là, n'importe quoi.
Quand vous comprenez pas, vous dites c'est pas fou.
Je n'ai pas dit que ce serait facile, Néron.
C'est pas simple, mais j'ai compris.
Bien, je crois qu'on va bien s'amuser tous ensemble.
Sixième Science, un podcast 20 minutes et science et avenir.
Qu'est-ce qui s'est passé? Combien ils étaient?
Ah, putain de tir!
Quoi? Il y a quelque chose qui m'a piqué!
Seriez pas en train de vous débarrasser de moi, vous, par hasard?
Non, pas du tout.
Les Français l'ont dans la peau et ils aimeraient bien s'en débarrasser. Arrivé d'Asie en 2004, le moustique tigre pompe le sang et l'air des Français dès que l'été pointe le bout de ses mollets. En 17 ans, le serial picker a conquis les deux tiers de l'Hexagone et quand il sévit, il ne laisse pas que des boutons aux malheureux. Le moustique tigre peut véhiculer des maladies tropicales qui n'ont d'exotique que le nom, Zika, Chikungunya ou encore la dengue. Le pire dans tout ça, c'est qu'il est trop tard pour s'en débarrasser. À moins de partir en Bretagne ou sur les beaux rivages de Normandie, les vacanciers auront forcément maille à partir avec ce minus d'à peine 5 mm qui cause tant de soucis. Elle a beau les recouvrir de spray répulsif, la France n'a pas baissé les bras pour autant. À la manière des irréductibles Gaulois, les autorités résistent comme elles peuvent à l'envahisseur. Plusieurs techniques sont actuellement à l'étude ou testées sur le terrain pour limiter sa propagation en attendant la potion magique. Pour en parler avec moi, Loïc Chauveau, l'expert nature et environnement de Science et Avenir, est venu sans sa bombe d'insecticides, mais avec tout son savoir, et c'est le plus important. Bonjour Loïc.
Bonjour.
Sans surprise, il n'y a pas de raison que cela ait changé. Dans ton article qui vient de paraître, là, on enregistre, on est début juillet, tu dis que la France est en état de surveillance renforcée. Déjà, est-ce que c'est encore le cas? Question 2, qu'est-ce que ça veut dire d'être en surveillance renforcée?
Oui, c'est encore le cas et ça va être le cas désormais quasiment tous les étés. Ce qui se passe, c'est que les agences régionales de santé, les ARS, sont effectivement sur le pied de guerre. À partir du moment où, sur le territoire national, là où le moustique tigre est diffusé, un médecin recevra un malade développant une maladie comme la dengue, ou Zika ou Chikungunya, aussitôt cette maladie est déclarée auprès de l'ARS, aussitôt l'ARS déploie sur le terrain des agents qui vont d'abord faire une investigation pour savoir si la personne revient d'un pays tropical où ces maladies sont courantes, et si c'est pas le cas, investiguer pour savoir d'où vient cette contamination. Et ça veut dire, dans ces cas-là, qu'on intervient également sur tout le quartier, c'est-à-dire qu'il faut désinsectiser tout le quartier, tous les voisinages, avec beaucoup de difficultés. Donc, en ce moment, tout le monde est sur le pont pour bien vérifier qu'il n'y a pas l'émergence d'une épidémie. L'an dernier, Santé publique France a ainsi dénombré 3 foyers de dengue autochtone, c'est-à-dire que c'était des gens qui ne revenaient pas des tropiques. Ça s'est passé dans le Var et à Nice. Il y en a eu 3 autres dans le Gard et dans l'Hérault. Il y a eu 13 victimes recensées et qui ne venaient vraiment pas d'une zone à risque.
Et comment ça a pu se produire du coup?
Alors imaginons une personne qui arrive par avion d'une région à risque, elle s'installe, elle est porteuse du virus de la dengue mais sans le savoir parce qu'il y a des cas qui sont asymptomatiques. Cette personne est piquée par un moustique tigre, le moustique tigre à la femelle va récupérer le virus de la dengue et puis elle va aller piquer une autre personne 2 jours plus tard, une personne qui est complètement indemne et qui n'a pas voyagé et lui transmettre le virus. Et c'est parti.
Il n'y a pas de tigre sauvage en France, donc il n'y avait pas non plus de moustique tigre sauvage en France avant 2004. Comment il a débarqué alors qu'il est normalement cantonné aux régions tropicales? J'ai lu qu'il était arrivé dans les Alpes-Maritimes via l'Italie et notamment via le commerce international de pneus d'occasion.
Oui, c'est l'hypothèse la plus vraisemblable. Les commerces de pneus, le commerce de plantes bambou également. Il faut savoir que les œufs du moustique tigre sont très résistants et qu'il lui permet effectivement de voyager sur de longues distances. Ce qui fait que ce moustique se développe aussi beaucoup dans les pays tempérés, c'est que ses œufs résistent au froid. Contrairement à son cousin qui est l'Aedes aegypti, qui lui aussi transmet des maladies virales, l'Aedes albopictus a ce privilège de pouvoir passer tous les hivers de nos contrées. Et c'est ce qui fait qu'il se diffuse.
Ce qui est peut-être le plus effroyable dans cette invasion du moustique tigre, c'est sa rapidité. Dans ton dossier, on peut voir qu'en une quinzaine d'années, le moustique s'est installé dans 64 départements. Et tu l'écris, il est malheureusement trop tard pour espérer s'en débarrasser. On va devoir faire avec.
Exactement. La diffusion a été d'autant plus vite qu'en fait, ce moustique qui est plutôt sédentaire, qui ne se déplace pas beaucoup très loin de son lieu de naissance, par contre, il profite de nos voitures et des camions. C'est-à-dire qu'un individu va rentrer dans une cabine et puis va voyager comme ça sur 40, 50, 60 kilomètres. Comme on le sait, c'est qu'un étudiant de Barcelone qui a eu l'idée de faire des analyses d'habitacles de voitures dans un péage de Barcelone. Et il s'est aperçu qu'il y avait plus d'un tiers des habitacles qui étaient occupés par un moustique.
Ouais, c'est incroyable. Nos auditeurs n'ont pas la carte sous les yeux, mais ce qui est assez impressionnant dans cette carte, c'est que, en gros, on a les deux tiers de la France qui sont noyés de rouge, donc c'est les cartes où le moustique tigre s'est répandu, et il reste un village d'irréductible département qui résiste à l'envahisseur. Alors, t'as notamment une enclave dans le centre, hein, t'as l'Allier, la Creuse, la Haute-Loire, et sinon, t'as la plupart des départements du nord de la France qui semblent échapper à l'invasion. Est-ce que c'est surtout rapport à la température de ces départements qui, en gros, les prémunissent un petit peu du danger et des crocs du moustique tigre ?
Plus que la température, c'est l'altitude. Au bout d'une certaine altitude, le moustique ne s'adapte plus. Et donc là, sur les trois départements que vous avez cités, ce sont trois départements avec des altitudes moyennes assez élevées qui empêchent la colonisation. Pour le Nord, eh ben écoutez, on dépend beaucoup de l'augmentation des températures et donc du réchauffement climatique. Et il est à craindre qu'avec l'augmentation des températures, Aedes albopictus, petit à petit, colonise la Normandie, les Hauts-de-France, les régions les plus septentrionales. Et aille même jusqu'en Belgique et Hollande.
Qu'est-ce que t'as ? Le palu. Foudroyant. T'as jamais voyagé ?
Eh ben, il faut croire que c'est le moustique qui a fait le voyage.
J'ai évoqué tout à l'heure les trois maladies principales véhiculées par le moustique tigre, hein, la dengue, le chikungunya et Zika. Je suis désolé de te demander ça, mais est-ce que tu peux revenir rapidement sur ces maladies et nous dire à quel point elles sont dangereuses ou relativement peu ?
Elles ne sont pas mortelles. Ces trois maladies ne sont pas mortelles, mais elles sont très incapacitantes. Ce sont des céphalées, ce sont des douleurs articulaires, ce sont des sentiments de fatigue intense, des fièvres, qui fait que on est incapable de faire quoi que ce soit, et notamment de travailler. Donc le poids social peut être très important. C'est le cas d'ailleurs dans la plupart des pays africains et dans nos départements d'outre-mer.
Donc ils portent des maladies qui sont quand même assez incapacitantes, dangereuses. Il est extrêmement résistant aux variations de température. Mais il y a encore pire. J'ai cru voir que sa capacité de reproduction, sa taille, son camouflage, mais aussi sa résistance aux produits biocides faisaient de lui un adversaire quand même assez redoutable.
Exactement. Donc je vous ai expliqué tout à l'heure que ses œufs résistaient aux températures hivernales, mais on s'est aperçu également qu'il devenait résistant aux biocides, aux insecticides. C'est pas le seul. Culex pipiens, qui est notre moustique traditionnel qui zonzonne habituellement et qui embête nos nuits, lui aussi est devenu résistant à ces produits biocides. Et donc là, on se retrouve avec une impasse parce que pas mal de produits chimiques ont été interdits parce qu'on s'était aperçu que pour la santé humaine et pour l'environnement, c'était vraiment pas bien. Et il ne reste plus qu'une molécule à disposition, qui est la deltamétrine, qui est de la famille des néonicotinoïdes, et c'est le seul que nous pouvons utiliser. Et cette deltamétrine, évidemment, on craint beaucoup parce que là aussi, des résistances se développent. Et on est d'autant plus inquiet qu'il y a une étude du CNRS, il y a 2 ou 3 ans, qui avait montré que ces résistances n'étaient pas réversibles et que les gènes en cause se transmettaient d'une génération à l'autre, même si on arrêtait d'utiliser l'insecticide. Alors, vous voyez, on se retrouve avec les produits chimiques dans une impasse, quoi, en quelque sorte.
Donc, il élimine au fur et à mesure les armes face auxquelles il est faible.
Tout à fait. Donc, il faut trouver d'autres solutions. Alors, il y a une première solution qui est celle de la lutte traditionnelle contre les moustiques, qui est compliquée pour Aedes albopictus, pour le moustique tigre, parce qu'il pique toute la journée. Généralement, dans les pays africains, pour éviter Aedes aegypti, on dit, écoutez, il pique à la fin de la journée, donc à la fin de la journée, vous portez des vêtements longs, des manches, etc. Là, ça veut dire porter des manches et des pantalons longs toute la journée, c'est un peu compliqué. Mais il y a une chose aussi qu'il faut faire et sur laquelle il faut être très vigilant et sur laquelle l'ANSES insiste beaucoup, c'est de nettoyer son jardin. C'est d'éviter éviter d'avoir des coupelles de plantes avec de l'eau stagnante, il faut couper les grandes herbes, vraiment faire en sorte qu'il n'y ait pas de lieu de ponte. En plus, parmi toutes les qualités, c'est qu'il adore vivre dans les villes. Donc, il adore vivre dans la proximité de l'homme. Et les enquêtes qui ont été faites, notamment par les ententes interdépartementales des démoustications, ces organismes qui sont chargés dans chaque région de lutter contre les moustiques, se sont aperçus en faisant des enquêtes qu'ils adoraient les cimetières. Alors là, vous avez plein de pots de fleurs avec de l'eau qui stagne, tout va bien, quoi. Les parcs et jardins, et puis évidemment les jardins des particuliers.
Le tableau que tu nous dépeins, il est vraiment pas rose, sachant qu'en plus, ce que tu dis pas là encore, c'est que non seulement il se reproduit, mais il peut beaucoup se reproduire, puisque j'ai lu dans ton dossier qu'une femelle pouvait pondre jusqu'à 2000 œufs durant toute sa vie, une vie qui peut s'élever jusqu'à un mois.
Tout à fait. C'est le stade de l'imago. Pendant ce stade, le moustique ne se nourrit plus. C'est la larve qui se nourrit, mais le moustique, là, ne se nourrit plus. Elle est justement là pour se copuler et se reproduire. Et la femelle, donc, fait un repas de sang. Elle a besoin de protéines pour pouvoir pondre ses œufs une fois l'accouplement effectué. Donc, elle fait une première piqûre de sang. Elle va pondre 200 œufs. Puis, deux ou trois jours plus tard, elle va refaire un autre repas de sang. Et ça, pendant un mois. C'est-à-dire qu'elle va piquer une dizaine de personnes à peu près pour pondre ses 2000 œufs. Et c'est comme ça que ça se transmet le virus. Si une femelle est infectée, elle peut potentiellement contaminer une dizaine de personnes.
Est-ce qu'on sait si, justement, ces femelles préfèrent certaines populations et certains types de peaux?
Alors, ce sont des recherches fondamentales. Il semble que oui. Alors, il y a eu un laboratoire à Lyon qui a fait un travail qui est un peu particulier. Ils ont pris une dizaine de personnes, 5 hommes, 5 femmes, dont ils ont tamponné les aisselles, les pieds, les mains, et ils en ont retiré chimiquement toutes les molécules chimiques. Et ils ont diffusé dans des caisses transparentes ces molécules odorantes et les ont soumises à des moustiques femelles. Et on s'est aperçu qu'effectivement, il y avait 3 substances chimiques qui étaient particulièrement appétantes, qui intéressaient beaucoup les femelles moustiques. Et donc là, on avait une première piste peut-être d'avoir un produit qui permettrait peut-être d'attirer, de détourner les moustiques de l'homme. Mais malheureusement, pour l'instant, cette recherche est restée complètement fondamentale et n'a pas encore intéressé d'industriels. On voit bien qu'effectivement, nous ne sommes pas égaux devant les moustiques. Il y a des microbiotes de la peau, c'est-à-dire toutes les colonies de bactéries qu'on a sur la peau, qui attirent plus les moustiques que d'autres. Et par exemple, les personnes qui ont bu de l'alcool attirent plus les moustiques, les femmes enceintes malheureusement également.
Mais bon, généralement, quand elles sont enceintes, elles ne boivent pas d'alcool, donc l'un dans l'autre, j'imagine que heureusement.
Oui. Mais nous, les gens qui prennent l'apéro le soir à la veillée, par contre, on prend un risque.
Voilà, on fait jeu égal avec les femmes enceintes. Mmh. Comme quoi, il y a une justice dans ce pays.
C'est que voyez-vous, monsieur, les paysans ne nourrissent pas seulement les moustiques, ils nourrissent aussi les aristocrates.
Justement, en parlant de justice, il est peut-être temps que les autorités rendent la leur, puisque j'ai pas quand même l'impression qu'on est totalement impuissant face à cette menace ailée ou tigrée. Quelles sont les armes aujourd'hui dont l'État peut se munir face à cette menace?
Il y a beaucoup de recherches qui sont menées, effectivement, pour essayer de trouver des alternatives aux produits chimiques. D'abord parce que les produits chimiques, c'est pas bon pour l'environnement, et ensuite parce que, justement, on en a parlé tout à l'heure, ils sont de moins en moins efficaces. Alors en ce moment, ce qui est vraiment dans les tuyaux, c'est ce qu'on appelle la TIS, la technique de l'insecte stérile. Alors il y a 2 voies là-dessus qui sont en cours d'essai dans le monde. Cette technique de l'insecte stérile, d'abord, c'est celle de l'irradiation, c'est-à-dire qu'on va prendre des moustiques, on va élever des moustiques et on va les soumettre à des rayons X, le tout sous des normes édictées par l'Agence internationale de l'énergie atomique. Cette irradiation étant justement mesurée pour que les rayons X n'atteignent que les parties les plus sensibles de l'insecte mâle, c'est-à-dire son appareil reproducteur. Mmh. Et ensuite, une fois ces insectes stérilisés, on les relâche dans l'environnement en espérant qu'ils vont rentrer en compétition avec les insectes sauvages, avec les mâles sauvages qui ne sont pas stériles, pour copuler avec les femelles. C'est une technique qui est en cours actuellement d'essai à Saint-Joseph, dans l'île de la Réunion. Il y a déjà eu des essais sur cette technique-là, mais elle ne correspondait pas à des critères scientifiques. Okay. C'est-à-dire qu'il faut avoir une population de femelles bien déterminée, il faut avoir à côté, sur un autre village, une autre population de moustiques pour pouvoir faire une comparaison de l'efficacité.
Un groupe témoin.
un groupe témoin. Et donc tout ça n'avait jamais été fait. Donc c'est l'IRD, l'Institut de Recherche et de Développement, qui est en train de mener cette opération qui a commencé en avril dernier, là, donc c'est tout nouveau, pour justement avoir un début de commencement d'une tentative de mesure de l'efficacité de ça. Puis l'autre technique, c'est l'utilisation d'une bactérie, Wolbachia. Alors Wolbachia, c'est une bactérie qui est très fréquente chez les insectes, et elle est connue notamment pour inhiber la capacité du plasmodium, ou cellule parasite qui est responsable du paludisme, à infecter les anopheles. Si vous avez un insecte, un anophèle avec des Wolbachia, il n'arrive plus à servir de vecteur au plasmodium, tout simplement pour une raison de place. Visiblement, la Wolbachia utilise la place du parasite. Alors, Wolbachia, on s'est dit, tiens, on pourrait jouer le même rôle chez les Aedes. Et le problème, c'est que naturellement, ces espèces, les Aedes, ne sont pas porteurs de Wolbachia. Mmh. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a intégré cette bactérie dans les œufs d'Aedes, et avec beaucoup de chance, on s'est aperçu qu'effectivement, les œufs étaient infectés, que les mâles étaient infectés, et qu'un mâle infecté par Wolbachia ne peut pas cibler une femelle qui ne l'est pas. C'est Google qui a créé une filiale, Verily, pour développer cette technique. On sait que ça marche. Là, cette fois-ci, mais c'est très récent là aussi, ça date du mois de mai. Il y a une étude scientifique qui a été menée dans deux quartiers d'une ville d'Indonésie, avec là aussi un quartier témoin et un quartier traité par des moustiques stérilisés par Wolbachia. Et on a effectivement vraiment un résultat intéressant, c'est-à-dire une baisse de la prévalence de la dengue de 70%. Un abattement quand même très très important. C'est la première preuve qu'on a que ça marche. Et là, on a un petit problème quand même moral, c'est que transférer une bactérie qui n'est pas présente naturellement chez un moustique, c'est un transfert horizontal d'une espèce à une autre, et ça ressemble à une manipulation génétique quand même.
On y vient, parce que parmi les autres, on va dire, nouvelles ou méthodes à l'essai, il y a celle du ciseau moléculaire, CRISPR. J'ai cru voir qu'il était là aussi à l'essai pour modifier ou rendre inoffensif certains moustiques.
Alors, on est encore un petit peu dans le laboratoire, là. On est en tout début, donc on ne sait pas très bien comment ça va marcher, mais c'est vrai que c'est une technique où on va essayer de couper la partie du génome qui permet l'infection par le virus, mais c'est une voie qui est encore très jeune.
Je trouve ça assez ironique, c'est que, quelle que soit la méthode, parmi celles que tu viens de nous montrer, pour remplacer une population par une autre, il va falloir élever quand même un grand nombre de moustiques et les relâcher au bon moment, au bon endroit. Comment on peut organiser et déployer justement ces moustiques au bon moment et sur les bons lieux?
Voilà. Alors, bon, élever les moustiques, c'est pas très compliqué, je veux dire. On a des grandes cages pour ça, on sait les reproduire. Effectivement, c'est les diffuser. Il y a des essais qui ont été faits, là, il y a une nouveauté, ça marche plutôt bien, c'est les drones. Avec les drones, on a pu avoir des très bons résultats et notamment relâcher des milliers d'individus sur plusieurs hectares grâce à ces appareils. La foire aux idées est ouverte, en quelque sorte.
Je ne sais pas si vous connaissez Rangoon, mais au mois d'août, il y a 100% d'humidité dans l'air. Il y a des moustiques gros comme mon poing qui vous filent le palais.
Dans ton papier, tu termines sur une dernière parade qui consiste à s'attaquer non pas aux moustiques mâles, à les rendre stériles ou inoffensifs, mais plutôt à s'attaquer aux lieux de ponte. Comment on pourrait s'y prendre?
Alors, ça existe déjà. Okay. Les ententes interdépartementales de démoustication, par exemple, savent très bien, ils connaissent les marais, les zones naturelles où les moustiques se reproduisent. Ils ont cartographié ces zones, les zones propices. Ils savent très bien que ces zones, par exemple en Camargue ou dans ces zones de marais, dès qu'il y a une pluie d'orage, il y a une mise en eau de ces zones et que voilà, il va y avoir une éclosion des œufs. Et ils viennent traiter que ces endroits-là. Ça évitait ce qu'on faisait à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, c'est-à-dire de prendre un avion et de mettre du produit chimique indifféremment sur toutes les zones de marais. Ça on ne le fait plus et heureusement, on a quand même progressé. Mais on peut être encore plus précis, il y a des chercheurs qui se sont dit, mais il y a des endroits même où les femelles sont encore plus attirées. Et elles sont attirées par quoi? Alors, elles sont attirées par un milieu. Alors, on parlait de microbiote de la peau. Là, maintenant, on parle de microbiote de l'eau, c'est-à-dire un agencement de bactéries, d'organismes, de végétaux qui plaisent aux femelles. Et donc, ce serait d'analyser ces conditions favorables, ce microbiote de l'eau, et de les cibler pour aller y poser des pièges. Et cette technique est en cours d'expérimentation en Méditerranée, dans le pourtour méditerranéen.
On va terminer avec la partie peut-être la plus pratico-pratique, puisqu'on va parler des particuliers, des moyens que nous avons, nous, pour nous protéger des moustiques tigres. Alors, entre la citronnelle que j'ai pas mal utilisée quand j'étais gamin, les sprays répulsifs, les répulsifs à ultrasons qu'on peut trouver sur Amazon et autres, et évidemment les insecticides, Quelles sont les solutions que tu nous conseilles en plus de nous couvrir les mollets? Parce que tu l'as dit, hein, le moustique tigre raffole des mollets.
Ce que je vous conseillerais, c'est les techniques de prévention. Il faut empêcher le moustique de pondre. Il n'y a que ça qui est efficace. Parce que pour le reste, malheureusement, tous ces remèdes sont des pis-allers, quoi. Ça ne marche pas à 100%. Et vous trouverez aussi, par exemple, un petit peu partout dans tous les commerces et sur Internet, des pièges à CO2. Alors, les pièges à CO2, les scientifiques sont très sceptiques sur leur utilisation. Le principe, c'est comme c'est le CO2 qui attire le moustique, le CO2 émis par notre corps, on va faire des pièges qui vont émettre du CO2 et les moustiques vont aller sur ces pièges plutôt que sur notre corps. La preuve de l'efficacité reste à faire.
Ouais.
D'abord, on n'est pas sûr qu'effectivement les pièges à CO2 ne vont pas attirer des moustiques qui, sans eux, ne seraient restés dans leur coin et ne seraient pas venus dans votre jardin. L'ANSES, justement, l'Agence nationale de santé, a commandé une expertise scientifique auprès d'un panel de chercheurs pour savoir effectivement la réalité sur l'efficacité de ces pièges. Et donc, les résultats sont promis là dans les jours qui viennent. Donc, on va savoir si effectivement on peut faire confiance à ces pièges. Sinon, pour le reste, la citronnelle, etc., l'efficacité n'est pas prouvée.
Ouais, mais les sprays répulsifs, hein, ceux qu'on emmène par exemple quand on part dans les îles, c'est plutôt des solutions qui sont efficaces pour repousser et éviter d'être piqué
c'est pareil, si vous allez surtout sur des pays endémiques de fièvre jaune ou de paludisme, les précautions, c'est vraiment d'éviter d'être couvert à la tombée de la nuit, d'avoir une moustiquaire imprégnée de DDT, c'est ces précautions-là qu'il faut prendre.
Ok, donc tout ce qui est produit, en gros, laissons tomber quoi. Les insecticides, les prises électriques, on lâche.
Ça peut rassurer, mais ça n'a pas fait preuve de son efficacité.
Et j'ai lu, je crois que c'était même ton dernier conseil, c'est qu'en gros, si jamais vous voulez utiliser des insecticides, faites-le avec parcimonie parce que vous risquez sinon de créer éventuellement une résistance chez vos moustiques.
Voilà, c'est ce qu'on en a parlé tout à l'heure. Les insecticides, on est au bout de la logique quoi. Chaque génération, alors ces moustiques font des dizaines de générations en un seul été, donc à chaque fois qu'elles rencontrent un agent, leur ADN, leur patrimoine génétique, cherche la parade et le trouve. Et donc, on se retrouve avec une baisse d'efficacité de ces produits absolument patente.
Eh ben, ça va être compliqué de passer entre les gouttes de sang, mais nous voilà déjà armés pour affronter le redoutable adversaire qui vous attendra en fait à peu près partout cet été. Merci Loïc. Alors, tu nous as pas vraiment remonté le moral sur la fin, mais en tout cas, tu nous as bien équipés avant de prendre le chemin des vacances. Du coup, je ne peux que vous conseiller de suivre ces conseils. Quant à moi, je vous dis à dans 2 semaines, en spray ou en bombe, on envoie de la science dans tous les sens.
On ne va pas se quitter comme ça. Vous avez aimé cet épisode ? Sportif, généraliste, sexo ou scientifique, varié mais toujours bien informé. Découvrez les autres podcasts de la rédaction 20 minutes sur votre application d'écoute préférée ou directement sur podcast au pluriel.20minutes.fr. Et merci de nous avoir écoutés.